hors champ. Orchamp, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Muriel Mayette. Muriel Mayette Holtz.
Oui, bonsoir.
Vous avez décidé de mettre le nom de votre nouveau compagnon, votre nouveau mari, partout à la Comédie-Française, et cela fait quelques petites vagues.
Oui, c'est étrange combien le bonheur dérange. Alors qu'au fond, tout le monde le sait, il n'y a pas à le cacher ni à jouer au chat et à la souris. Et le bonheur, au contraire, ça donne une énergie à partager. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Mais est-ce que le bonheur passe forcément par un nouveau nom quand on est arrivé à un certain âge de la vie ?
C'est pas une question de nouveau nom, c'est que j'ai épousé un homme qui a un nom connu, qui est public, et qu'au lieu de faire semblant qu'on se connaît à peine, autant le dire, si je me suis mariée, c'est parce que j'en avais le désir, et c'est pour dire ce bonheur, et puis avoir quelque chose de plus positif à partager, c'est plutôt de la joie, quand même. On est beaucoup pour le mariage pour tous. En tout cas, moi, je suis pour le mariage pour tous. Mais donc, je n'ai pas envie de le cacher. Je ne me suis pas mariée pour le garder pour moi.
Vous êtes souvent tombée amoureuse ?
Je suis tombée amoureuse de mon métier en premier. Je suis passionnée. Mais ce bonheur-là, je ne le connaissais pas. J'ai eu des hommes extraordinaires, des grands comédiens, de grands artistes dans ma vie. J'ai eu cette chance. C'est une chance, le bonheur. Et là, ce cadeau
enfin, ça
qu'on
se conquiert.
Me fait, oui, il faut savoir l'accueillir, mais tu ne le choisis pas. C'est comme la passion, elle te prend. Et là, cet homme est venu me chercher. Et j'ai cette chance immense qui me permet d'avoir encore plus d'énergie à partager. C'est une très bonne nouvelle.
Et comment cette passion du théâtre est née, puisqu'on dit que déjà à 14 ans, vous étiez sur les planches ?
Cette passion, je ne l'ai pas choisie. Je raconte souvent qu'une passion, pour moi, te prend autant que tu lui donnes. J'ai compris qu'elle avait choisi ma vie sans me demander mon avis à moi. Et c'est merveilleux et en même temps, c'est assez vertigineux. Quand j'avais 16 ans, j'ai quitté l'école pour faire ce métier. Je ne l'ai jamais regretté, mais il m'a mangé tout. J'ai tout donné aussi à ce métier.
Et le milieu familial était déjà dans le théâtre ?
Pas du tout. Pas du tout, et j'ai commencé à découvrir le théâtre par l'écriture de Victor Hugo. Je crois que je ne suis pas la seule. Victor Hugo me soulève le cœur toujours quand je le lis, me donne des frissons. J'ai vu mon premier spectacle, c'était Un son et lumière. J'étais toute petite et j'ai trouvé extraordinaire que l'homme puisse inventer des rêves dans la nuit, des rêves éveillés. Je trouvais ça magique. Et j'ai toujours eu le besoin de retourner à cet endroit d'une vie inventée, dans la dimension sacrée qu'offre la nuit.
Les professeurs ont-ils été importants dès votre adolescence ?
Les lectures ont été importantes surtout. Quand j'ai quitté l'école, j'ai eu envie d'apprendre, ce qui est paradoxal. C'était comme une libération et en même temps un monde à conquérir.
Donc c'était quitter l'école pour être comédienne ?
Absolument. Il n'y avait pas d'autre choix possible. J'ai passé en cachette l'épreuve de la rue Blanche avec une dérogation. Et comme je l'ai eue, il a fallu dire, voilà maintenant c'est ça. Et maintenant je mesure combien la construction par les auteurs est une grande bibliothèque dans mon corps, est une vraie éducation. Pendant un certain temps, j'ai culpabilisé de ne pas avoir fait d'études. J'aurais aimé apprendre les langues, mais j'ai appris par les auteurs.
Vous avez appris les langues des auteurs, non ?
Oui, voilà, ces rythmes-là, ces rythmes de l'écriture.
Et comment cela vous a-t-il construit ? Quels sont les auteurs qui se sont incorporés à vous et qui ont pu peut-être vous donner une colonne vertébrale plus tard ?
D'abord, tous les auteurs que j'ai eu la chance de jouer, pour ce qu'il pressente du monde, la prosodie de Claudel, les alexandrins de Racine, dans ce qu'ils ont de l'ordre du lapsus permanent, de ce qu'ils disent derrière les mots. Je considère par exemple que Simenon est un des plus grands auteurs du XXe siècle. 1000 écritures, je passe ma vie à lire.
À partir de quel moment décidez-vous de passer le miroir? Je veux dire, par exemple, vous parlez de Racine, qui est très important dans votre parcours. Vous l'avez joué, mais vous l'avez aussi mis en scène. À partir de quel élan se fait la décision de la mise en scène?
En fait, j'ai toujours fait assez parallèlement ces deux métiers que je considère être des métiers très différents. Je n'ai d'ailleurs fait l'expérience qu'une seule fois d'être à la fois le metteur en scène et d'être sur le plateau. C'était très, très difficile, très douloureux, parce que les deux perdaient. Je ne savais pas me regarder et je faisais exactement ce que je pouvais reprocher aux acteurs. Donc, c'est pas le même point de vue du tout. Mais depuis que j'ai 18 ans, j'ai monté une compagnie qui s'appelle la compagnie Jeux, J-E-U-X, parce que je voulais faire jouer mes camarades et aussi avoir une vision de l'œuvre avec plus de recul. Alors que quand on joue un peu comme des œillères, on est concentré sur son propre instrument et sur sa propre partition. Et heureusement qu'on rentre d'une certaine façon en subjectivité de l'œuvre. C'est très différent quand on met en scène. Un des professeurs qui était Bernard Dort m'a donné beaucoup envie de passer à la mise en scène, d'être responsable du sens.
Alors Bernard Dort était l'un de nos intellectuels du monde théâtral le plus important. Il a écrit des livres qui restent aujourd'hui majeurs. Il a aussi dirigé le théâtre du temps où Jacques Lang était ministre de la Culture. Nous allons l'écouter dans une émission du 15 janvier 1980 avec Dominique Arban. Il va nous parler de son désir de retrouver un théâtre de la subjectivité.
Je crois une chose très importante du théâtre actuel, c'est de retrouver, au-delà de la description sociale, au-delà de la critique politique, un théâtre de la subjectivité. Là aussi, il y a quelque chose qui a changé depuis Brecht, après Brecht. Enfin, Brecht avait mis l'accent sur le drame de l'histoire, le drame épique. Le théâtre d'aujourd'hui ne l'oublie pas, mais il décrit ce drame épique presque par le trou de la serrure, à partir des individus, à partir même des aliénations les plus individuelles,
nous
comme la folie.
Nous avions parlé de la petite Catherine Heilbronn de Kleist,
oui,
le mois dernier.
Le retour à Kleist, l'intérêt qu'on a pour Kleist aujourd'hui, fait partie aussi de ça. C'est sans doute une des grandes composantes du théâtre actuel, de retrouver l'individu sous le personnage, comme sous le metteur en scène, de retrouver le jeu, de retrouver tout simplement le comédien qui joue, le corps qui parle.
Alors nous venons d'entendre la voix de Bernard Dort. Êtes-vous d'accord avec ses propositions, avec l'évolution du théâtre qu'il vient de nous dire ?
Absolument, d'autant que moi j'ai été extrêmement influencée par ce monsieur. Dans la simplicité qu'il avait de raconter les choses, de nous apprendre la dramaturgie. C'était jamais grave et c'était simple. Et dans l'idée d'un théâtre populaire, Bernard Dort a eu un rôle très très important. On se revendique beaucoup tous de Villard, mais la dramaturgie et la maîtrise du sens à partager avec le plus grand nombre. C'est un grand monsieur, ce Bernard Dort. C'était aussi un immense spectateur. Il a vu pendant 40 ans 4 à 5 à 6 spectacles par semaine. C'est une mémoire considérable de l'évolution du théâtre.
Et êtes-vous d'accord sur l'évolution du monde théâtral, même si vous n'avez pas le spectre historique de Bernard Dort? Pensez-vous que vous avez vécu, assisté, participé peut-être, Muriel Mayette, à cette évolution du monde du théâtre, où nous avons vu il y a une trentaine d'années une certaine génération de metteurs en scène qui décidaient d'une traduction, d'une transcription, d'une prise en charge du texte, qu'il soit contemporain ou du répertoire, et que progressivement, depuis peut-être 5-6 ans, les metteurs en scène reviennent à un rôle d'artisan, d'éclaireur, de mise en lumière du texte.
Oui, je pense que le théâtre évolue considérablement, surtout ces dernières années. D'abord parce que beaucoup de disciplines ont rejoint le plateau. Moi, quand j'ai commencé, et donc il y a un certain temps maintenant, il y a plus de 30 ans, je suis rentrée à la Comédie-Française, enfin, il y a 29 ans, il n'y avait pas de relâche-lumière. Aujourd'hui, on fait des relâches-lumière parce que la lumière prend beaucoup d'importance. La scénographie, la vidéo rejoint les plateaux, la musique, la danse, les arts du cirque. Il y a énormément de disciplines. Ça, c'est une première chose. Et puis, pendant une période, le cinéma a boudé les acteurs de théâtre en cherchant des acteurs qui étaient des non-acteurs dans une quête du réalisme. Et puis maintenant, le cinéma réopère un grand amour avec les acteurs de théâtre parce qu'il y a une distance du jeu qui permet de mieux voir. Aujourd'hui, le théâtre met davantage en valeur les acteurs, donnant au metteur en scène, qui a une place très très prépondérante au XXe siècle, une place plus d'accompagnateur que de chef d'orchestre, disons.
Dans quelles circonstances êtes-vous rentrée à la Comédie-Française ?
J'ai eu un parcours très classique. Je suis rentrée à la Rue Blanche à 16 ans. À 18 ans, je suis rentrée au conservatoire. Et en sortant du conservatoire, l'administrateur de l'époque était Jean-Pierre Vincent, m'a proposé tout de suite de rentrer à la Comédie-Française. J'ai eu l'outrecuidance.
Il en était le directeur à l'époque ?
Il était l'administrateur de la Comédie-Française. Il est resté 3 ans. J'ai dit non. Parce que ça me paraissait trop classique, trop facile, et j'avais envie de me confronter à la liberté. Et puis, un mois est passé, l'été est passé, et puis j'ai dit oui parce qu'au fond, je n'avais pas d'autre projet, et j'y suis restée parce que j'aime passionnément ce fonctionnement. D'abord de vivre dans une troupe, d'avoir cette chance inouïe de pratiquer son artisanat toute l'année. Et forcément, ça engendre une virtuosité, une connaissance de ce métier beaucoup plus performante, disons. Et surtout, c'est un métier parce que nous avons la chance de le pratiquer toute l'année. Or, ce métier, ça prend dans le refaire, c'est-à-dire jouer les jours où c'est plus difficile, où on n'a pas envie. Et moi, j'ai eu la chance de jouer depuis que j'ai commencé, sans cesse.
Quels sont les rôles qui vous ont construite ?
Ah, je dirais peut-être tous les rôles, parce que j'ai joué très différemment. Quand j'avais 16 ans, j'ai fait tout Molière au Théâtre Fontaine avec Marcel Tassoncourt. On ne répétait que 3 jours, on était payés à la ligne. Et puis, j'ai eu des rencontres extraordinaires. Dans ces rencontres, il y a Claude Régis, qui a été mon professeur au conservatoire et que j'ai retrouvé quand il a monté à la Comédie-Française huis clos. Ce sont des grandes personnalités. J'ai eu Jacques Lassalle, qui a été un grand metteur en scène pour moi, qui a compté. C'est un grand directeur d'acteurs, qui m'a fait jouer plusieurs pièces, dont La Fosse Suivante de Marivaux, Georges Dandin, et qui a été l'administrateur de la Comédie-Française pendant un temps, et qui reste un compagnon très très précieux dans mon rôle d'administratrice.
Et qui vient voir toutes les représentations à la Comédie-Française.
Incroyable, il a une fidélité incroyable et il est toujours aussi exigeant, aussi honnête et aimant. Et puis Mathias Longhoff, qui a beaucoup compté aussi, parce que j'ai beaucoup joué avec lui en dehors de la Comédie-Française, entre autres. Après, ce métier, c'est un métier de la rencontre, c'est un métier qui se fait à plusieurs, c'est un des rares arts qui se pratique dans le groupe, ensemble, en équipe. Et donc ce sont les rencontres qui ont compté autant que les écritures, davantage que les rôles.
Dans quelles circonstances avez-vous imaginé que peut-être un jour vous deviendriez la première administratrice de la Comédie-Française ? On se rappelle le contexte historique, donc vous parliez de Jacques Lassalle, de Jean-Pierre Vincent, Antoine Vitesse, qui ont été des administrateurs de la Comédie-Française. Marcel Bozonnet l'était juste avant vous. Il y avait une histoire assez malheureuse avec une possible entrée du répertoire d'un texte de Peter Handke, et Marcel Bozonnet s'était insurgé contre l'entrée de ce texte. Maintenant, aujourd'hui, la page est tournée, puisque Peter Handke est de nouveau sur les plateaux de théâtre. Stanislas Nordet le donne donc dans ce texte admirable Par les villages. Mais donc, il y a eu, au niveau institutionnel, dans le monde du théâtre, une division entre les gens qui pensaient qu'il fallait interdire Peter Handke, d'autres qui pensaient qu'il fallait rien interdire du tout et faire écouter Peter Handke. Comment cela s'est passé, votre apprivoisement de l'idée que peut-être, bah oui, vous en étiez de cette Comédie-Française depuis longtemps, alors pourquoi pas en devenir l'administratrice ?
En fait, je ne l'ai jamais souhaité. On me l'a proposé et j'ai répondu présent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'un artiste ne doit pas se dérober à ses responsabilités quand elle se présente. Ce n'est pas une fin en soi pour moi d'être administratrice. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ce nouveau métier. J'ai aussi mis ma vie d'actrice entre parenthèses pendant un long temps. J'ai continué à être metteur en scène parce que ma force vient du plateau et pas derrière un bureau.
Après, il me semble vous avoir vu une fois alors que vous veniez d'être administratrice dans un spectacle au conservatoire, mais ce n'était pas un spectacle très public.
Alors, je continue à jouer, je remplace une actrice si elle est absente ou malade. Ça m'est arrivé à maintes reprises depuis que je suis administratrice. J'ai remplacé Madeleine Marion, Dominique Constanza. J'ai joué le malade imaginaire en Chine parce qu'il manquait une actrice. Donc, c'est mon métier. Je continue à jouer, il n'y a pas d'interdiction.
Et vous pouvez tout jouer.
Je peux tout jouer, mais mon travail en tant qu'administratrice est d'abord et avant tout de distribuer mes actrices qui sont de grandes comédiennes. Il y a 10 fois moins de rôles de femmes. Et puis jouer et rentrer...
10 fois ?
Ah, mais regardez, une pièce de Molière, il y a la jeune première et la nounou. Une pièce de Shakespeare, il y a la reine et la jeune première. C'est tout, il y a 10, 15, 20 partitions masculines autour. Oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup moins de rôles de femmes. Et c'est une des...
Il y a combien de femmes à la Comédie française ?
Quasiment autant que d'hommes. Ils sont 63 comédiens, il y en a peut-être un peu moins. Alors là, je n'ai pas les chiffres en tête, il y en a peut-être 28. Mais il y en a beaucoup. Et qui ont toutes beaucoup, beaucoup de talents. Donc une de mes concentrations dans ma programmation est d'essayer de leur trouver des créations chaque année. Mais pour finir de répondre à votre question, ça demande de la disponibilité, de l'errance, de rentrer en désobéissance aussi, que de se mettre en processus de création. Et je n'ai pas toujours cette disponibilité-là, donc actuellement, le rôle d'administratrice prend toute la place. Et je n'ai pas dit oui contre mon prédécesseur. J'ai dit oui parce qu'on m'a proposé de prendre cette responsabilité. Et qu'au fond, ça m'a ouvert des fenêtres sur le monde que je suis heureuse d'avoir ouvertes. Parce qu'on a tendance aussi, quand on est en création, quand on joue, à être concentré plutôt vers soi, plutôt vers le groupe. Et alors que nous devons représenter le monde, nous l'oublions parfois ce monde. Alors là, je le visite bien, dans sa complexité.
Vous dites cela parce qu'effectivement, dans le cahier des charges de la Comédie française, il y a... La charge d'aller faire entendre le théâtre au nom de la France dans le monde entier.
C'est pas dans les statuts. Dans les statuts, en fait, c'est très abstrait. C'est donner à entendre le répertoire et l'enrichir. Donc, à chaque administrateur de répondre à cette mission. Moi, j'ai mis dans mes priorités de renouer avec les grands voyages, parce que je pense qu'on doit représenter notre pays à l'étranger le plus possible, et que le 1680 est un sésame et une image de la grande culture française, et que c'est très important de reprendre la route, aussi bien en France qu'à l'étranger d'ailleurs. Donc j'ai emmené la troupe pour la première fois en Sibérie, pour la première fois en Chine. On fait plus d'une centaine de dates en dehors de nos murs chaque saison. Et puis beaucoup sur les routes de France, parce qu'il y a beaucoup de public qui n'a pas l'occasion de monter à Paris, parce que nos salles sont pleines et qu'il faut aussi pouvoir partager. Et puis la deuxième mission que je me suis vraiment donnée, c'est d'accueillir l'audiovisuel. Parce qu'aujourd'hui, au XXe siècle, on travaille beaucoup avec la radio. C'est presque naturel. C'est un instrument de travail que moi, personnellement, j'adore comme actrice, parce qu'on est concentré sur la voix, sur l'organe vocal. Mais dans toute la subtilité que ça peut représenter, je trouve que c'est très important qu'aujourd'hui, on soit avec le cinéma. Et donc, depuis que je suis là, on a fait des films de fiction, on a fait ce que j'appelle la collection, inviter des réalisateurs avec le langage cinématographique à donner une réponse au répertoire. Parce que le mariage caméra-plateau est très difficile à résoudre. Et finalement, on achoppe toujours sur les mêmes problèmes. La forme théâtrale est très grossière sur l'instrument caméra. Et donc, on les voit jouer bizarrement. Et donc, on n'a fait jamais tellement mieux qu'au théâtre ce soir où les caméras sont sur le plateau. Donc là, on travaille avec des réalisateurs de cinéma. On est au 6e tournage. Là, on est en train de finir Don Juan. On a fait avec Arnaud Desplechin La forêt d'Ostrovski. Donc, je me suis donné cette mission aussi d'accueillir l'audiovisuel sur nos plateaux.
Quelle est votre définition du répertoire et quels sont les contemporains que vous avez inscrits au répertoire de la Comédie française ?
J'ai inscrit pas seulement des contemporains, j'ai inscrit aussi des textes qui me semblaient être très symbolique sur l'évolution du théâtre aujourd'hui. Par exemple, j'ai monté des pièces de Dario Fo, qui est donc rentré au répertoire, parce qu'il me semble que ce théâtre engagé dans les usines est une marque importante du XXe siècle. Comme il y a certains textes qui ne sont pas des contemporains que je viens de faire entrer, pour le symbole que ça représente, le premier texte de langue arabe qui a été écrit par un Syrien qui s'appelle Sadala Wanous, qui est mort il y a une vingtaine d'années. Quand on pense que le répertoire russe est rentré en 1954, il est temps aujourd'hui, alors qu'un des grands défis du XXIe siècle est notre capacité à accueillir l'autre, alors que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, c'est peut-être un des défis les plus difficiles à réaliser. Eh bien, la culture est une porte d'entrée pour comprendre la différence de l'autre. Donc, ce texte de langue arabe, j'espère que ce ne sera pas le dernier, pour qu'on comprenne une histoire différente. Mais il y a des auteurs comme Naomi Wallace, qui est une femme, une grande poétesse américaine. C'est important de penser aux femmes, c'est un des grands sujets actuellement d'actualité, mais c'est vrai qu'il faut être attentif à ça pour que ça devienne naturel.
En tout cas, dans le domaine du théâtre, les récentes nominations prouvent que les efforts voulus par l'actuelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, portent leurs fruits et qu'effectivement, une nouvelle génération de femmes d'une petite quarantaine d'années, sont en train de prendre les commandes de plusieurs théâtres. Donc on va peut-être voir émerger une nouvelle évolution aussi du théâtre et de la programmation du théâtre.
Moi, je pense que c'est très important d'être vigilant, de faire un effort, même peut-être un peu volontaire, pour qu'on n'ait plus à parler de ce sujet, pour que ce ne soit plus un sujet. Or, jusqu'à présent, ça l'est encore beaucoup.
Mais pourquoi ?
Parce que les femmes, dans
la construction de leur carrière... Parce que c'est inscrit dans l'histoire même du théâtre, comme vous le disiez, sur le répertoire et sur les rôles féminins.
C'est inscrit dans l'histoire même de l'humanité. Et à un moment donné, il faut être attentif à une sorte de complément, d'égalité, oui, mais dans sa complémentarité. Et que les femmes qui poussent peut-être moins des épaules dans la construction de leur carrière aient quand même une place en fonction de leur talent. Et dans les arts, qui devraient être peut-être le milieu le plus exemplaire sur l'égalité entre les hommes et les femmes, ça n'était pas le cas. Regardez le peu de chefs d'orchestre. Pour les actrices, c'est différent, mais néanmoins, il y a 10 fois moins de rôles. Je le confirme.
Et il y a beaucoup moins de femmes à la tête des institutions théâtrales et beaucoup moins de femmes encore aujourd'hui metteurs en scène,
absolument,
comme si
absolument.
Le pas n'était pas franchi.
Absolument. Et moi, je fais très attention dans ma programmation d'en inviter, d'inviter des auteurs, d'essayer de rééquilibrer un peu ces forces-là, ces talents-là.
Parlons de la troupe. À la Comédie française, il y a une troupe. Et pourtant, dans cette troupe, il y a certaines et certains qui décident de quitter cette troupe. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Est-ce que vous avez assoupli les règles qui font que faire partie de la troupe comporte des obligations tellement lourdes que quelquefois, quand l'itinéraire d'un comédien ou d'une comédienne devient extrêmement brillant, ben, il ne peut pas répondre à toutes les sollicitations et il n'a plus comme seule solution que de quitter la troupe ?
Alors, il y a deux choses très différentes. Il y a ceux qui décident de s'en aller parce qu'ils ont besoin d'être en autonomie. Comme Judith Chemla, qui est une actrice immense que j'ai engagée quand elle est sortie du conservatoire et qui a eu besoin, à un moment donné, de se construire elle-même dans les spectacles qu'elle voulait faire, dans l'équipe qu'elle voulait constituer. Or, à la Comédie française, les acteurs jouent énormément. On donne à peu près 850 représentations dans une saison. Ils sont 63 comédiens. Donc, c'est une exigence énorme et tout n'est pas compatible. François Château a quitté la troupe pour diriger le théâtre de Dijon. Marina Hand, c'est parti parce qu'elle a choisi d'être libre pour faire du cinéma. Après, chacun maîtrise sa carrière et moi, comme administratrice, je ne suis pas là pour faire la carrière de chacun. J'essaie de remplir la mission que je me suis donnée en remplissant ce rôle d'administratrice par rapport à la Comédie française. Mais après, mon but tous les matins est d'essayer d'avoir des acteurs heureux parce que s'ils sont heureux, ça se verra sur le plateau. Donc après, il y a la possibilité de faire d'autres choses. C'est-à-dire, en l'occurrence, la grande sollicitation, elle vient du cinéma. On est au 21e siècle, j'aurais tort de considérer que c'est incompatible, les calendriers de cinéma, avec ce qui se passe sur nos plateaux. Je ne vous cache pas que ça rend les choses très difficiles dans notre planning, mais à partir du moment où la sollicitation est énorme, je ne vais pas la nier. Donc dès que je peux, je laisse les acteurs libres. Mais quand je ne le peux pas, je suis obligée de faire office d'autorité, puis de dire, mais non, là je ne peux pas te laisser partir parce qu'on joue tel et tel spectacle dans lesquels tu es. Mais dans notre fonctionnement, si je peux les remplacer, s'ils peuvent se remplacer, je fais tout mon possible pour les rendre libres, à tel point que j'essaie d'accueillir le cinéma aussi pour que ceux qui soient moins connus, parce qu'il n'y en a pas tant de connus, en tout cas du grand public, via le cinéma, via l'audiovisuel ou la télévision, qui compte beaucoup aussi.
Mais même dans la troupe de la Comédie française, il y a beaucoup plus de comédiennes et de comédiens sollicités à l'intérieur des 63 personnes que d'autres.
Oui,
donc ça ne doit pas
entendu,
être facile à gérer rôle, non plus.
Mon rôle est de rééquilibrer les choses, voilà. D'essayer, parce que je les connais bien, que j'en ai engagé plus de la moitié, et qu'à un moment donné, c'est de redistribuer avec les metteurs en scène en fonction de leur qualité. Après, je fais du cinéma dans nos murs pour que certains comédiens moins connus aient une visibilité. Par exemple, Sylvia Berger vient d'avoir le premier prix d'interprétation au Festival de Florence. Hervé Pierre a eu un prix au Festival de La Rochelle. Et ça me fait plaisir parce que ces acteurs sont moins connus et ils ont tout autant de talent.
Comment engagez-vous les nouveaux sociétaires, Muriel Mayette ?
Alors, j'engage que des pensionnaires, moi, quel que soit leur parcours. Et c'est la troupe qui décide si les acteurs restent ou pas, s'ils les proposent comme sociétaires. Je les engage, je réponds ça, parce qu'il n'y a pas d'autre loi pour moi que à l'instinct.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes dans les salles de théâtre, dans les écoles de théâtre, que vous allez beaucoup au théâtre pour essayer de trouver les nouveaux talents. Comment les trouvez-vous ? Ou que vous recevez beaucoup de sollicitations ?
D'abord, je reçois énormément de sollicitations, mais ce n'est pas ça qui guide mon chemin. Parce qu'une fois que j'ai les lettres de demande, je le comprends, le métier est de plus en plus difficile. Et c'est une structure admirable pour pratiquer ce métier, la Comédie française. Donc il est normal que je reçoive beaucoup de sollicitations.
Oui, mais enfin, ce n'est pas une protection, effectivement.
Non. Il faut donner beaucoup en échange. Hein, c'est très exigeant, la Comédie française. Alors en fait, je vais au théâtre très, très, très souvent. J'ai beaucoup aussi de personnes qui travaillent avec moi à me solliciter sur tel ou tel spectacle ou tel talent qui émerge. Et puis après, quand je vois les acteurs, je les engage dans leurs différences pour qu'aucun ne vienne faire de l'ombre à l'autre. Et aussi dans la différence des écoles, parce que l'une des beautés de cette troupe, elle est dans la... D'ailleurs, il y a cette devise qui est « simul et singulis », être ensemble et rester soi-même. Et c'est dans la différence qu'ils viennent enrichir le talent de cette troupe-là. Alors j'essaie de trouver des personnalités différentes, des corps différents, des histoires, des écoles différentes. Quand j'engage Elliot Génicot ou Christian Heck, j'engage pas du tout les mêmes personnalités. Quand j'engage Serge Bagdasarian ou...
Récemment, vous avez engagé Didier Sandre, alors que c'est un artiste absolument extraordinaire, mais c'est un artiste qui a plus de 60 ans. Donc, vous avez engagé aussi, c'était quand, il y a 2 ans, un jeune homme qui s'appelle Pierre Ninet, qui est absolument exceptionnel lui aussi. Donc, ce n'est pas du tout l'âge qui fait le critère.
Ah, mais non, il faut tous les âges pour pouvoir représenter le monde, pour faire du théâtre. Quand j'ai engagé Hélène Surgère, qui n'est plus avec nous maintenant, elle avait 82 ans. Et...
C'est génial, ça.
Mais c'est ce qui est extraordinaire dans ce métier. Et elle était tellement
heureuse.
Il n'y a
pas de retraite.
Heureusement non. Après, c'est le corps qui dit stop, mais il faut beaucoup de santé pour faire ce métier. Non, il n'y a pas de retraite, il nous faut tous les âges pour représenter le monde comme il nous faut. Toutes les personnalités, toutes les cartes d'identité, ce serait l'idéal. Je trouve seulement qu'on n'est pas assez nombreux, parce que c'est un mode de fonctionnement très juste, même économiquement. Parce que nous, on a la capacité de reprendre les spectacles d'année en année, on a la possibilité de se remplacer, et quand même, on relève ce défi qui est magique, de faire ces 850 représentations. Et encore une fois, si à 6h30, j'apprends qu'il y a une actrice qui est malade ou qu'un acteur ne peut pas jouer, on le remplace, on se remplace. Moi, je remplace les actrices.
Le principe de l'alternance, qui est celui qui régit la Comédie française, c'est très important. Reprendre les mises en scène des années après, c'est les réentendre autrement, c'est les voir autrement, c'est les ressentir aussi autrement.
Mais d'abord, c'est important de reprendre les spectacles parce qu'il faut les exploiter. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. d'énergie, beaucoup de talent concentré. Il n'est pas normal.
C'est très rare dans le monde du théâtre. Hein. C'est la Comédie française qui le permet, justement.
Oui, mais c'est après tout, il est
parce
quand même normal.
Parce que le théâtre, c'est l'instant. C'est l'évanescence, c'est tandis qu'à la Comédie française, c'est la continuité.
Ah oui, mais on est dans l'instant, chaque représentation est unique. Mais le fait de pouvoir jouer un spectacle plus longtemps, d'abord dans l'alternance, on s'épuise moins, parce qu'on ne le joue pas tous les soirs, on ne joue pas 500 fois d'affilée. Mais le reprendre d'année en année, c'est parfois se passer le relais, et les acteurs changent sur les mêmes rôles. C'est aussi pouvoir faire profiter un plus grand nombre de spectateurs de cette mise en scène. Moi, j'aurais rêvé voir certaines mises en scène de Strehler que je n'ai pas pu voir. Et on parle des spectacles à l'Odéon, les spectacles qui nous plaisent, si on ne les joue que 3 semaines, c'est court pour aller les voir. On a cette chance de pouvoir reprendre. On a le Fil à la pâte, on a le Cyrano de Bergerac, on a des spectacles avares qu'avait monté Catherine Yégel, le Malade imaginaire qu'a monté Claude Stratz, qui n'est plus avec nous, qui a gagné beaucoup, beaucoup de prix, notamment le prix du Festival Pour Rire à Montréal. C'est quand même extraordinaire que Molière reste encore le leader de la joie partagée. C'est bien de pouvoir les reprendre, d'autant que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'art du présent. Donc, il n'y a pas une représentation qui sera la même d'un soir sur l'autre. Surtout quand on a la possibilité de jouer une ou deux fois par semaine seulement ce spectacle.
Nous allons écouter Antoine Vitez. Il va parler des rapports entre les auteurs et les acteurs. C'est une émission du 17 octobre 1978, Dialogue sur France Culture.
Jouer une pièce de théâtre, je parle ici du point de vue de l'acteur, jouer une pièce de théâtre, c'est mettre ses pieds dans les traces des pas d'un autre, c'est-à-dire se rendre compte, en le faisant soi-même, enfin, par le fait lui-même de le faire, se rendre compte, recopier, n'est-ce pas, se rendre compte de ce qu'a été l'existence d'un autre. D'une certaine façon, dans le travail de l'acteur par rapport au travail de l'auteur, par rapport à la trace écrite, il y a une perpétuelle tentative de reconstitution de la mort, de lutte contre la mort, de résurrection finalement de gens qui ont laissé des traces. Et alors on croit que c'est quelque chose qui a une forme en quelque sorte froide, extérieure, littéraire, et en fait c'est une trace. Il suffit de suivre cette trace et on se remet, on fait revivre quelqu'un qui a disparu. On fait, et c'est ça finalement la culture au fond, c'est l'appropriation de tout ce qui est notre passé, tout ce qui a existé avant nous et qu'on reconstitue.
Vous souscrivez aux propos d'Antoine Vitez, Muriel Mayette ?
Absolument. Je souscris d'abord parce qu'il a commencé par dire, c'est mettre les pas dans les pieds de quelqu'un d'autre. Il a raison, jouer c'est d'abord physique, on oublie trop souvent ça. Jouer c'est rentrer. C'est arriver avec son corps et donc avec ses pieds, avant de dire quelque chose. Et puis souvent, la différence entre les amateurs et les professionnels, c'est que les amateurs viennent donner une réponse sur le personnage. Ils disent, par exemple, en jouant « Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur en faisant Armande des femmes savantes ?» Ils disent « Ah ben voilà, cette fille est aigrie, elle est en colère. » Ils donnent des réponses. Alors qu'en fait, jouer, c'est porter le sens qui a été porté par d'autres avant. C'est donc essayer de s'étonner ensemble dans l'ici et maintenant de « Cette femme dit ça. » Cette femme commence par dire « Quoi ?» Et dans ce « Quoi ?», je peux entendre, par exemple aujourd'hui, l'impuissance qu'elle a. Parce que commencer par « Quoi ?», c'est ne pas être capable d'organiser quelque chose. Et c'est d'entendre ensemble ce que dit cette femme que d'autres ont entendu précédemment. C'est pas tout à fait la même activité. Et c'est là que ça devient un métier. C'est d'une certaine façon une humilité totale de porter le sens et en même temps un orgueil immense de se dire « je rentre et c'est mon corps et moi-même avec son histoire qui le portons ».
Cela veut dire que chaque interprétation d'un rôle relève aussi d'une historicité du rôle et de connaître les autres interprétations du passé.
Ça veut dire surtout qu'en le refaisant vibrer, en le réécoutant grâce au public, donc ensemble, hein, dans la solitude, ça ne marcherait pas. Dans cet échange émotionnel, d'énergie émotionnelle, on va entendre comment résonne ce texte aujourd'hui. Comment Armande est entendue aujourd'hui, c'est pas du tout comme elle était entendue il y a 20 ans. Parce que l'actualité n'est pas la même et ça permet à l'actualité de s'engouffrer dedans sans qu'on décide la façon dont elle va s'engouffrer. Si on entend Médée après l'affaire Villemain, on ne l'entend pas de la même façon que 20 ans après ou 20 ans avant. C'était la grande phrase de Marguerite Duras, sublime, forcément sublime.
Donc vous n'êtes pas de celles qui pensaient que le répertoire classique est un répertoire patrimonial et qu'il ne faut pas trop en faire et que le théâtre français souffrirait peut-être et serait perclus de rhumatisme parce qu'il y aurait trop de programmation du répertoire.
Ah mais je pense que c'est fondamental d'entendre le répertoire comme il est fondamental pour se construire, de lire les auteurs d'avant, bien entendu, de notre propre histoire. Et d'ailleurs, s'ils ont traversé les siècles, c'est qu'ils ont bien résisté au fait qu'on les malmène. Heureusement qu'on les malmène. Moi, je ne lis pas un livre sans le tordre, sans que ce soit physique, ma lecture. Et à un moment donné, être irrévérencieux, c'est une façon de s'approprier une écriture. C'est pas du mépris, bien au contraire, c'est de l'amour. Et on a besoin de réentendre ces textes parce que tous les textes parlent de la même chose, avec des rythmes différents. Et s'ils traversent les siècles, encore une fois, c'est qu'ils nous parlent encore aujourd'hui. Les grandes tragédies, ce sont des faits divers qui sont devenus exemplaires, où l'auteur a réussi à rendre une dimension universelle à ce fait divers. Mais quand on dit « est-ce que Molière a bien été écrit par Molière ?», je dis « moi qui le joue ». Bien entendu, c'est la parole d'un seul homme qui a mis sa vie sur le papier, qui dit à un moment donné, n'y a-t-il pas de danger à contrefaire le mort ? Un homme qui va mourir à la 4e représentation et qui vient d'écrire ça, qui met sa vie à ce point-là sur le papier, devient universel. Et cette phrase-là, elle peut nous interroger encore aujourd'hui, bien entendu. Et puis dans 100 ans, elle nous interrogera encore parce qu'on sera tous confrontés à la mort, à l'amour, à la peur, à la force de la nature, à ce miracle d'être vivant debout sur la terre pour ce petit bout de temps dont on ne comprend pas très bien pourquoi il nous a été offert.
Pensez-vous que les auteurs, les créateurs, ne dédaignent pas trop, je parle plus particulièrement de la France, cet art majeur qu'est le théâtre pour l'écriture des pièces? Vous avez monté Bond à la Comédie Française, vous avez monté Dario Fo. On a l'impression que la génération juste d'avant, qui hélas est morte beaucoup trop tôt, je parle par exemple de Jean-Luc Lagarce, que vous avez monté aussi, de Bernard-Marie Coltès, deux auteurs majeurs qui sont devenus célèbres après, hélas, leur mort. Mais on a l'impression que peut-être cette source est un peu dédaignée par les créateurs d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur de ça? Par exemple, on parle de Handke monté par Nordet. Eh bien, il a adapté un roman de Handke.
Non, moi je ne crois pas du tout qu'il n'y a plus d'auteur de théâtre, au contraire. Après, chacun remplit sa mission. Moi, je fais rentrer par exemple Naomi Wallace au répertoire. Ça a été assez critiqué. C'est un grand, grand auteur de théâtre. C'est une grande poétesse. Et quand on la représente pour la première fois, on a tendance à avoir besoin d'une deuxième lecture, d'une deuxième mise en scène, d'une troisième mise en scène pour s'habituer à un nouveau langage dramatique. On n'est pas assez curieux. Après, chacun doit avoir sa mission. La mission de la Comédie Française, c'est entre autres de donner aussi à entendre le répertoire classique, d'abord parce que ça suscite des grosses distributions et qu'aujourd'hui, dans la précarité des budgets, on est quasiment presque les seuls à pouvoir faire tant de Shakespeare, tant de distributions aussi conséquentes, avoir 20, 25 comédiens sur le plateau. Et je pense que c'est important que chacun remplisse bien sa mission, que le théâtre de l'Europe nous ouvre vers les écritures européennes, que le théâtre de la Colline mette en valeur les écritures contemporaines davantage, ce qui ne nous empêche pas quand on a des règles du jeu. Les règles de grammaire, elles sont là pour qu'on les transgresse, mais il faut qu'elles existent aussi, donc qu'on ne fasse pas tous la même chose. Après, moi, je pense qu'il est très important de faire entrer au répertoire des nouvelles écritures. On ne l'a peut-être pas assez fait parce que maintenant, aujourd'hui, les répétitions des spectacles demandent une maturation beaucoup plus longue qu'au début du XXe siècle, par exemple. Et donc, on fait moins de créations, elles sont plus chères, elles sont des maturations plus lentes. Antoine Vitesse parlait de combustion lente parce qu'on répète plus longtemps les spectacles, que l'interprétation est plus fouillée, que la multiplicité des arts qui rejoignent le plateau demande plus de temps de préparation. Et sur le coup, on fait 5 créations, par exemple à Richelieu. Au début du XXe siècle, on en faisait beaucoup plus. Et donc, c'est plus exceptionnel quand on fait rentrer une nouvelle écriture dramatique. Mais il y en a, et je peux regretter moi aussi qu'on ne le fasse pas davantage.
Nous allons écouter Catherine Yégel. Elle va parler de ses rôles, des rôles de vieille femme, et aussi de son éviction de la Comédie française.
Quand j'étais jeune, c'est vrai que c'était très stéréotypé, les emplois. Mais plus j'ai vieilli, et plus je trouve au contraire que j'ai un espace de liberté incroyable. Au contraire, au théâtre, je ne vous parle pas de l'image, du cinéma, parce que pour faire du cinéma, d'abord, trouvez-moi des rôles de vieille, il n'y en a pas. De femme, vieille, il n'y en a pas. Ou alors une vieille concierge.
À part Tati Daniel.
Un truc. oui, voilà. Alors on l'a fait une fois et on va s'arrêter. Je veux dire, donc il n'y a pas de rôle. Et puis, c'est pas grave, je m'en fous, je m'en passe. Mais au théâtre, je veux dire, il y a énormément de rôles. Et en plus, là, je ne trouve pas qu'il y ait inégalité. Il y a inégalité dans l'écriture, si vous voulez, des œuvres classiques comme des œuvres contemporaines. Il y a toujours plus de rôles d'hommes que de femmes. Ça, c'est sûr. Mais qu'on ait 18 ans, 30 ans, 40 ans ou 100 ans, il y a toujours plus de rôles. Que ce soit un écrivain féminin ou masculin qui écrive. C'est comme ça.
Vous avez été doyenne de la Comédie française.
Oui.
J'imagine que quand on vous a remercié de la Comédie française, ça a dû être un peu un coup de vieux.
Non, de vieux.
Ça n'a pas été un coup dur, mais pas un coup de vieux.
Un coup dur, mais pas un coup de vieux. Non. Ça ne m'a pas fait plus vieillir.
Et vous ne vous êtes pas dit, voilà, il y a un moment où je ne suis plus désirée et on passe comme ça de l'autre côté, d'une certaine manière,
Non.
Non ?
Non, je ne me suis pas dit ça. J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas compris. Et c'est comme une petite mort. Il faut un temps.
Si une petite mort, ce n'est pas un coup de vieux.
Et puis, non, parce qu'avoir les petites morts, mon Dieu, on les connaît, on les fréquente toute sa vie. Et puis, la profession est venue à moi, beaucoup. Beaucoup.
Ouais.
Et je travaille, et j'ai beaucoup de travail devant moi qui m'attend, comme comédienne, comme metteur en scène. C'est peut-être un coup de chance qu'on m'a donné.
Et aujourd'hui, effectivement, Catherine Yégel, 3 ou 4 ans après, a pris son envol. On peut dire qu'elle n'a jamais autant travaillé que depuis qu'elle a été sortie de la Comédie française, Muriel Mayette.
Oui, mais parce que Catherine Yégel, c'est une immense actrice.
Mais pourquoi a-t-elle été sortie ?
Ils sont fous d'avoir fait ça. Ils l'ont sortie parce qu'elle a de la personnalité et qu'elle n'a pas de langue de bois,
mais
qu'elle est
dingue.
Entière. Et qu'aujourd'hui, le français a toujours été comme une loupe pour représenter ce qui se passait à l'extérieur. Et aujourd'hui, on a très peur des gens qui détonnent, qui ne font pas la même chose, qui n'obéissent pas à l'ensemble. Et on ne parle plus que d'une voix. Catherine, et moi j'ai grandi avec des gens comme Catherine, j'ai appris mon métier grâce à eux. J'ai grandi avec des personnalités qui se criaient les uns sur les autres et puis qui se réconciliaient. Et c'était vivant, explosif, passionnant. Non pas que ça ne le soit plus aujourd'hui, mais le groupe prend le dessus. Et donc, ils l'ont sortie et c'est une chance parce qu'elle a assez de talent pour justement continuer à travailler. On a besoin d'actrices comme elle. Mais après, la raison, c'est une petite mort parce que c'est très très dur. Et comment tu veux comprendre ça ? Quand on dit c'est sans toi, et tout le monde a dit, je crois, c'est sans toi, avec le chagrin de la perdre en même temps. C'est paradoxal. On a vraiment eu tort, vraiment. Mais c'est comme ça, après. Moi, je suis optimiste. Je m'abrite sous une fourchette quand il va pleuvoir des petits pois. C'est pas grave, il faut passer pour continuer, parce que la vie est plus forte. Et quand on a du talent comme Catherine, bien sûr qu'elle joue tout le temps.
Ça sera une petite ou une grande mort que de quitter la Comédie française comme administratrice quand votre mandat arrivera à expiration ?
Ce sera une autre histoire qui s'écrira. Antoine Vitesse disait une chose très juste. Un acteur, de rôle en rôle, c'est comme s'il écrivait une œuvre sur le sable et puis la mer recouvrirait cette œuvre. Mais c'est une œuvre. La multiplicité de ses expériences, de ses moments de vie, enrichissent les suivants. Oh, ce sera une autre page.
Merci Muriel Mayette Holtz.
Merci, merci à vous.
Alain Joubert, Brigitte Bouvier, Catherine Parent, Anne-Vanessa Prévost, Didier Lagarde, toute l'équipe de Hors-Champ vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. Dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.